Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici RTWA pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Monsieur Philippe Frémaux, économiste et animateur de débat. Et aussi, vous êtes éditorialiste du magazine Alternative Économique. Monsieur Frémaux, vous organisez donc régulièrement des débats au sein des locaux du campus Biovallée à Eure. Et le prochain, d'ailleurs, aura lieu le 7 décembre à 19h. Avec quelle thématique cette fois-ci?
Alors la thématique est croissance ou environnement, faut-il choisir? Donc c'est un débat, vous voyez, sur une des questions majeures qui concerne aujourd'hui, enfin la nécessité effectivement d'avoir une activité économique qui satisfasse nos besoins et en même temps d'inscrire celle-ci dans les limites de la planète.
Pourquoi cette préoccupation pour vous? Est-ce que c'est un des paramètres aussi, que ce soit la croissance ou l'environnement, pour un meilleur avenir?
La question, elle se pose dans les termes suivants. C'est que d'une part, nous savons aujourd'hui que les contraintes écologiques, les dérèglements climatiques, les menaces sur l'extinction de la biodiversité menacent même les conditions de la vie pour nos enfants, nos petits-enfants. Enfin, je veux dire, c'est la survie de l'humanité qui est en jeu. Et dans le même temps, on voit bien que, aussi longtemps que l'idée de croissance économique est associée à plus d'emplois et que l'emploi est la condition d'accéder à un revenu décent, on voit bien qu'il y a à la fois une très grande demande pour plus de croissance et en même temps, si cette croissance a pour effet de détruire effectivement l'environnement qui assure la reproduction de la vie, c'est quand même un problème majeur. Alors, toute la discussion est de savoir si on peut passer à un régime d'activité qui soit plus respectueux de l'environnement, qu'on appelle ça une croissance verte ou qu'on appelle ça au contraire une post-croissance. Voilà.
C'est un chantier donc à laquelle vous vous attelez et qui a commencé depuis combien de temps par rapport à cette démarche?
Les interrogations sur cette question, elles remontent à plusieurs décennies maintenant, puisque le premier rapport du Club de Rome, qu'on a traduit en français les limites de la croissance, date du début des années 70. Donc vous voyez, c'est pas nouveau. Ce qui est vrai, c'est qu'avec l'essor des préoccupations autour du changement climatique, et aussi avec le fait que l'activité économique au niveau mondial s'est développée de manière très spectaculaire au cours de ces dernières décennies, avec des retombées parfois positives, notamment sur la diminution de la pauvreté, on a aujourd'hui des problèmes. Les problèmes se posent dans des conditions qui sont beaucoup plus préoccupantes encore qu'il y a quelques décennies. On voit bien que dans toute une série de domaines, les limites sont franchies et on atteint des seuils qui sont des seuils d'irréversibilité. C'est-à-dire que ça, on ne va pas réussir à réparer parce qu'on consomme une quantité de ressources qui sont tellement supérieures à ce que la planète peut nous offrir et peut renouveler spontanément qu'effectivement on va à notre perte.
Oui, il semblerait que nous ayons atteint un point limite de non-retour à un environnement bénéfique. Et dans ce cas-là, quelle est votre démarche? C'est un combat de la dernière ligne?
Non, alors, je veux dire, ce dont on va discuter, mais enfin, moi, je ne suis que l'animateur, hein, c'est Aurore Laluc, la co-directrice de l'Institut Veblen, qui interviendra. Je pense que ce qu'elle va plutôt développer, c'est comment on peut arriver à la fois respecter les limites de la planète et en même temps réorienter le système économique pour qu'il produise plus de bien-être au bénéfice de tous. Parce que dans le même temps, on voit bien que la croissance économique, elle s'accompagne aujourd'hui de beaucoup d'inégalités, d'un chômage de masse. Enfin, je veux dire, les résultats de notre modèle économique, au vu de ses performances de ces dernières décennies, ne sont pas non plus totalement satisfaisants quand on voit effectivement le fait que on a toute une partie de la population qui vit dans des conditions qui restent très difficiles.
La question était de savoir aussi, puisque c'est un problème de planète, quels sont les échanges internationaux? Est-ce qu'il existe aussi d'autres structures telles que la vôtre qui agissent de même sorte ailleurs?
On sait très bien que maintenant, ce sont des questions qui sont sur l'agenda, notamment des Nations Unies. Je veux dire, et puis vous avez une grande partie des chercheurs. Regardez, si vous un organisme comme le GIEC, un organisme qui rassemble tous les experts climatologues de la planète pour produire des études sur les effets du dérèglement climatique. Je veux dire, on a toute une série de structures qui se sont traduites d'ailleurs par des traités internationaux, des accords internationaux, comme on l'a vu avec la COP21 il y a 2 ans maintenant sur Paris. Mais on voit bien que tout ça est à la fois trop lent et ne va pas assez loin.
On peut noter aussi ce recul des États-Unis dans le sujet.
C'est évident que les États-Unis, la position actuelle des États-Unis avec un président Trump plus que climato-sceptique est évidemment préoccupante dans la mesure où ce pays est le second émetteur de gaz à effet de serre et où en plus il a de fait un rôle d'exemple, un rôle de leader au sein de d'une grande partie des pays du monde. Mais enfin, pour l'instant, l'Europe reste sur une position fidèle à l'accord. Et ce qui est quand même intéressant au cours de la dernière période, c'est que la Chine et également l'Inde, mais dans une moindre mesure, ont bougé.
On va peut-être revenir à cette soirée de débat. Qui sera présent lors de ce débat?
Alors, le débat, moi, j'interroge donc, comme je vous l'ai dit, Orla Luc, qui est co-directrice de l'Institut Veblen, qui est une spécialiste de ces questions. Qui est une économiste, mais très impliquée dans les questions d'économie écologique. Et comme d'habitude, nous invitons effectivement tous les citoyens de la communauté de communes du Val de Drôme et au-delà à venir participer. Et on a généralement, très souvent, une salle pleine dans le bel amphi du campus Biovallée.
Alors, le résultat de ces débats aboutissent à quoi dans la durée des débats ?
Ils changent profondément le monde, ne serait-ce qu'en regardant par la fenêtre. Non, je rigole. Non, mais soyons sérieux. Je pense que la fonction qu'on remplit, d'abord une fonction de débat citoyen, de montrer que au-delà des questions qui sont les questions de proximité, de développement territorial, qui sont réglées par une collectivité territoriale. Cette collectivité territoriale, elle opère aussi dans un monde où il y a toute une série d'enjeux qui sont posés. Et je veux dire que les discussions qu'on peut avoir aussi bien autour des enjeux écologiques, des enjeux démocratiques, sont aussi une manière d'impliquer effectivement les citoyens au-delà de leur territoire de proximité dans des questions qui sont des questions plus globales, même si ces questions globales se déclinent aussi dans un cadre de proximité. On voit bien avec le fait qu'on est aussi dans une communauté de communes qui s'interroge sur les modes de production agricole, qui s'interroge sur les modes de production d'énergie. Bon, toute une série d'enjeux qui sont au cœur du modèle économique qu'ils nous font construire aujourd'hui.
Pour l'avenir, vous envisagez quoi par rapport à cette démarche? Est-ce que, votre association ou votre structure œuvre parmi les esprits, enfin par rapport à des personnes décisionnaires? Est-ce que vous avez leur oreille? Est-ce que vous avez leur oreille?
Moi, je suis journaliste, en tant que journaliste comme vous, on est d'abord des gens qui diffusent une information. Je ne suis pas une association ni une organisation, attention. C'est-à-dire je fais venir des gens qui, effectivement, peuvent militer dans des structures dans lesquelles je peux parfois être proche, mais je veux dire, mon métier comme animateur des controverses, c'est d'abord mon métier de journaliste. Donc, en revanche, ce que je peux répondre de manière plus générale à votre question, c'est que, de fait, les politiques aujourd'hui ne sont pas insensibles à ces questions. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que Emmanuel Macron a jugé bon de faire rentrer Nicolas Hulot à son gouvernement, qui est passé d'un certain point de vue de l'autre côté du miroir, puisque lui, il était plutôt dans une position de lobbyiste, d'ONG, enfin de personnalité du monde associatif, incitée tord les politiques à agir, et maintenant il est passé du côté de l'action, mais on voit bien qu'au sein même du gouvernement, il est lui-même une sorte de lobbyiste en faveur des enjeux écologiques et environnementaux, et pour donner à l'activité économique un contenu moins destructeur de notre environnement.
Pardonnez-moi pour cette remarque, mais en tant que simple citoyen qui, au quotidien, perçoit un peu l'actualité, nous n'avons pas l'impression quand même que M. Hulot ait vraiment beaucoup de possibilités au sein de ce gouvernement. Vous pensez que si ?
Écoutez, je pense qu'il est... Il y a un certain nombre de... Je serais menteur en disant que je ne vois pas un certain nombre de limites à son action. C'est tellement évident que... On ne va pas dire l'inverse. Dans le même temps, vous avez toute une série de dossiers sur lesquels on va voir les arbitrages qui vont être rendus au cours de l'année 2018. Et je pense que c'est en fin d'année 2018 qu'on pourra juger si sa présence au gouvernement a joué un rôle positif ou non. Vous voyez bien que sur le glyphosate, il a sans doute obtenu une décision qui est beaucoup plus favorable à l'environnement que ce qui aurait été fait par la simple action des grands lobbies agricoles qui étaient pour une autorisation sans restriction de ce produit phytosanitaire. Il a aussi mis en œuvre une loi sur l'extraction d'hydrocarbures qui, même si elle est à long terme, envoie un signal qui est positif. Il y a toute une série d'actions qui vont être engagées, notamment pour réaliser les promesses non tenues du quinquennat précédent dans la lutte contre la précarité énergétique. Bon, il y a toute une série de... Et sur le plan du programme nucléaire et du développement des énergies renouvelables, on va voir s'il est capable de mettre en œuvre les promesses qui avaient été faites par le gouvernement précédent, mais sans être suivi d'aucune décision concrète. Donc, on ne peut pas tout de suite faire tous les procès d'intention en inefficacité, parce qu'il n'a pas changé les choses d'un seul coup.
J'entends bien. Et puis, monsieur...
Il faut être vigilant, et je pense que c'est aussi en critiquant son action qu'on augmentera son rapport de force au sein du gouvernement.
Ces débats que vous organisez, permettent quoi au sein de l'assistance qui vient vous écouter, et vous-même, vous prenez note de ce qui est perçu dans la salle, par exemple ?
Pour le journaliste que je suis, et observateur et commentateur de la vie économique, sociale... et des débats sociaux, économiques, environnementaux, c'est toujours très instructif parce que on a un public qui est un public de qualité, qui pose de bonnes questions, qui réfléchit, qui discute. On a une population qui se pose beaucoup de questions dans le Val-de-Drôme et dans la Biovallée en général. Et donc, c'est vrai que c'est très, 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 très intéressant, très enrichissant de participer. Et ensuite, ce que les gens en retirent, il faudrait le leur demander. Je veux dire, moi, je suis pas là pour vous dire que bon, je pense qu'ils sont dans l'ensemble satisfaits puisqu'ils reviennent et qu'ils sont souvent de plus en plus nombreux, je dirais, au fil des controverses. Donc le bouche à oreille doit plutôt être favorable.
Le public qui vient assister à ces débats, ils viennent pour le côté écologique, par exemple, ou alors
Que ça dépend du sujet, parce qu'on peut avoir des sujets assez variés. Donc il y a à la fois un public sans doute de fidèles qui viennent un peu, quel que soit le sujet, parce que c'est aussi une animation culturelle dans la région. Et puis il y a aussi des gens qui vont venir plus spécifiquement en fonction du sujet, parce que ça les motive. Ils ont envie d'en savoir plus sur cette question. Donc je peux pas vous dire exactement. Il faudrait demander plus aux organisateurs du côté de la communauté de communes s'ils ont une vision plus claire, puisqu'ils connaissent sans doute mieux que moi les participants. Je pense que Jean-Marc Bouvier pourrait vous en dire plus.
Je vous remercie, Monsieur Philippe Frémaux.
Okay, au revoir.
Et puis voilà. Bonne fin
à
de journée.
Bientôt. Au revoir.
Interview.
Okay, the bird.